Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série qui est une nouvelle série, comme je l'ai dit, et quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire essayons de croire, comme l'Écriture sainte le dit. Essayons de croire comme la Sainte Bible nous l'enseigne. Ils sont en effet nombreux ceux qui affirment que personne n'est pur et que l'on ne peut avoir un cœur pur. Cependant, Jésus dit à ses disciples dans Saint Jean, chapitre 15, verset 3, « Vous êtes déjà purs à cause de la sainte parole que je vous ai annoncée. » Et dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Heureux donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, « Le but du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul parle de ceux qui conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, il atteste en ce qui le concerne qu'il sert Dieu avec une conscience pure. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il parle d'autres personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'autre part, il est dit dans Tite, chapitre 1, verset 15 et 16, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, car leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, est-il dit, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nous trouvons en outre les passages suivants dans lesquels il est question d'un cœur pur, Éphésiens chapitre 5, verset 26. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la sainte parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et Hébreux chapitre 1, verset 3, il a fait, est-il dit, il a fait la purification des péchés par lui-même. Heureux celui qui croit ce que la sainte parole de Dieu dit et qui ne remplace pas les termes, par exemple, nous sommes, nous avons, par, nous serons et nous aurons. Je répète, heureux ceux qui croient ce que la sainte parole de Dieu dit et qui ne remplace pas les termes « nous sommes »,« nous avons » par « nous serons » et « nous aurons » éventuellement. Dieu est saint envers celui qui est saint, Dieu est pur envers celui qui est pur, mais avec celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversion. C'est assez catégorique que tout cela. De nos jours, beaucoup de gens pieux, religieux, prétendent que nous nous souillons journellement, disons à l'appui de cela, que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ils trouvent dans ce fait un argument pour dire que nous aussi, nous avons besoin de nous laver les pieds chaque jour. Et cependant, le Seigneur dit expressément, « Je vous ai laissé un exemple. » Oui, laver les pieds est uniquement un exemple. Vous êtes purs à cause de la sainte parole que je vous ai annoncée. Nous sommes rendus purs par l'offrande du corps de Christ et non pas par le lavage des pieds. Oui, en effet, voyez-vous, le Seigneur dit encore, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et certains trouveraient donc à objecter que l'apôtre Pierre n'était pourtant pas pur et que les disciples s'étaient encore disputés en chemin pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Mais Pierre n'a pas contredit les paroles du Seigneur, pas du tout. Il s'en est au contraire réjoui. Vous êtes purs à cause de la sainte parole. Combien plus cette parole est-elle véritable maintenant que l'œuvre de rédemption est accomplie, pure par l'offrande du corps de Christ. Je répète, pure, et cela par l'offrande du corps de Christ. Cette proclamation résonne agréablement et réveille notre adoration. Oui, c'est dans le sang de Jésus que réside la puissance de victoire. Alléluia. Des sept églises mentionnées dans l'Apocalypse, deux seulement étaient sans reproche, et dans les cinq autres églises, bien que leurs anciens fussent réprimandés, il se trouvait tout de même parmi eux quelques membres qui étaient irrépréhensibles devant Dieu, donc qui étaient purs. Et c'est pourquoi, pardon, et c'est pourquoi ceux qui écoutent des prédicateurs n'annonçant pas la vérité seront sans excuse. Le Seigneur Jésus vient comme l'éclair et personne n'aura le temps de se purifier et rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Ainsi donc, il doit y avoir une position, c'est-à-dire un état, où Dieu peut donner à l'homme le témoignage qu'il est irrépréhensible et sans tache par le Seigneur Jésus. Cependant, tu as à Sardes des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il ne s'agit pas ici d'une position gardée pendant un jour ou peut-être un mois. Non, ils n'ont pas souillé leur robe. Et c'est pourquoi ils marcheront en vêtements blancs avec le Seigneur. Et là seront manifestés tous ceux qui, en vérité, ont osé se confier dans l'œuvre de la rédemption et dans le sacrifice éternel accompli par Jésus-Christ. Ces hommes qui n'avaient pas souillé leur robe étaient des hommes comme nous. Ils étaient comme vous et moi dans leur état naturel, maudits, impies, mais ils ont accepté l'Évangile. Ils se sont laissés sauver par Jésus-Christ et ils sont demeurés fermement dans la foi et le salut. J'étais parmi ceux-là qui étaient perdus dans la fosse à Purin. Et évidemment, vous comprendrez que je suis éternellement reconnaissant au Seigneur qu'il m'a repêché. Oui, il a fait quelque chose de merveilleux et c'est pour ça que j'ai offert ma vie, que ça fait 25 ans que j'ai pas fait de vacances, mais je ne m'en plains pas. Il serait même dangereux si j'en étais devenu orgueilleux d'avoir pas fait de vacances pendant 25 ans. Ce serait absolument grave et ça déplairait à mon Seigneur. Il va sans dire. Mais juste pour dire que ça ne me manque pas et bien sûr, j'ai quand même failli, comme on dit, être plus parmi nous, parmi vous, parce que, encore il n'y a pas si longtemps, j'ai quand même été deux fois qu'on m'a amené aux urgences pour une pneumonie infectieuse. Et je suis donc suivi, évidemment, malheureusement, je dois l'avouer, par une pneumologue qui m'a fait comprendre que la troisième fois, je n'y échapperai pas. Bien sûr, on pourrait dire que je ne fais pas assez confiance au Seigneur, puisque j'ai appris à faire un peu plus attention de ne pas attraper un coup de froid en étant vêtu négligemment, trop légèrement, pour sortir en hiver. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on manque de foi parce qu'on fait attention. Bien au contraire, nous devons collaborer pour, si possible, rester en état aussi longtemps que possible pour servir le Seigneur. Continuons notre étude. Ils ont été donc les imitateurs de l'apôtre Paul, lui qui se glorifiait en Jésus-Christ et ne mettait point sa confiance en sa propre chair, et qui regardait ce dont la chair pouvait se glorifier, c'est-à-dire sa conduite irréprochable selon la loi, comme de la boue, a-t-il dit, et comme une perte, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, en Christ, non avec la justice qui vient de la loi, évidemment, mais avec celle qui s'obtient par la simple foi en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3. Donc, la parole de Dieu, elle est vraiment véritable. Et celui qui croit expérimente cette promesse-là. Cette promesse qui dit « Il a purifié leur cœur par la foi » et il réalise qu'il n'y a plus de condamnation en lui, il est devenu un enfant bienheureux de Dieu. Ces vérités-là, qui sont merveilleuses, ne laissent pas les hommes dans leur état naturel, pas du tout. Celui qui les accepte passe tout simplement de la mort à la vie, de la mort à la vie. Puis, sa connaissance augmente, et là, il va de lumière en lumière. C'est pas toujours évident, et il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas toujours du premier coup. Mais en priant que le Saint-Esprit nous révèle les choses, on arrive à comprendre tel que le Seigneur voudrait qu'on le comprenne. Pas toujours évident, je l'avoue. Tandis que celui qui les rejette, ça, c'est tout autre chose. Celui-là tombe toujours plus bas dans la mort, également dans la nuit, parce que la mort, c'est la nuit. L'homme qui prend ses vérités à cœur réalise la paix du cœur et le repos. Il sait donc parfaitement que Jésus a détruit à la croix, il a détruit l'acte d'accusation, cet acte qui subsistait contre lui. Il ne se lamente donc plus sur son passé en disant « Oh là là, si seulement je n'avais pas fait telle ou telle chose !» Non, non, non. Lorsque les transgressions ont été pardonnées et que Dieu affirme, vraiment qu'il affirme qu'il ne veut plus y penser, alors nous pouvons nous appuyer par la foi sur sa sainte parole, car Dieu ne peut mentir. C'est l'expérience la plus belle qu'un homme puisse réaliser. Certains prédicateurs proclament que le Seigneur ne vient pas habiter un cœur impur et qu'il s'agit premièrement de le purifier. Cela n'est pas possible. Évidemment, je dois reconnaître que dans mon cas, je dois dire la vérité, que le Seigneur est venu dans mon cœur, qui malgré cela, et j'ai honte de le dire, que ce cœur est resté encore longtemps pas très pur du tout. Et j'en ai bien honte de vous l'avouer, mais on doit dire la vérité, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y en a qui ont un autre parcours, et j'ai connu un jeune homme dont les parents étaient très croyants, puisque le père était un pasteur qui prenait la Bible à la lettre, telle qu'elle est, et sa mère priait beaucoup. Donc son parcours par la suite était merveilleux et à la gloire du Seigneur. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, et il va sans dire que on dit des fois en français « je l'ai échappé belle hein, », c'est un slogan qui est quand même très vrai. Avec un père qui s'est marié 5 fois, vous comprendrez que c'était pas tout drôle. Mais passons. Voyez-vous, dans notre état naturel, l'état naturel de nous, comme on a eu le parcours tel que le mien, horrible, nous ne pouvons présenter un cœur pur au Seigneur. Oh là là, j'en étais très loin. Si nous voulions le purifier nous-mêmes, eh bien nous serions semblables à quelqu'un qui voudrait laver un fumier, c'était mon cas, et ce serait peine perdue. Et comment pourrions-nous purifier nous-mêmes nos cœurs lorsque les mêmes prédicateurs proclament que personne ne peut avoir un cœur pur? Voyez-vous, autrefois, je répétais aussi de telles contradictions et je déclarais d'accord que j'étais d'accord avec tous ceux qui les soutenaient. Mais aujourd'hui, eh bien ça a changé, je ne le peux plus. C'est précisément quand le Seigneur vient pour habiter dans notre cœur que celui-ci est purifié enfin, et toutes les ténèbres, toutes les souillures, et entre guillemets épouvantables, toutes les impuretés disparaissent devant sa divine lumière, et nous sommes rendus participants de la nature divine. Vous pouvez écouter la série que je viens de terminer sur les enfants de la lumière, selon un serviteur de Dieu qui utilise pour ses prédications ce que j'ai fait, m'a dit « C'est extraordinaire, vous avez été bénis de faire cela. » Chers amis, dans une certaine communauté en Allemagne, puisque je suis de langue allemande, il était enseigné qu'il restait toujours un point sombre dans le cœur des hommes, et cela malgré la régénération. Bon, ces gens déclarent par ailleurs, qu'il était pénible de vivre pour Dieu. Ils parlaient cependant beaucoup de l'Esprit Saint de Dieu, mais non de ce qui est écrit dans la Sainte Parole de Dieu. Parce qu'il faut aussi être d'accord avec ce qui est écrit. Nous devons compter avec ce qui est écrit, et ainsi nous nous édifions sur le rocher. Oui, sur le rocher, c'est-à-dire sur un fondement inébranlable, de telle sorte que ni les ouragans, ni les tempêtes ne peuvent nous renverser. Donc si nous vivons volontairement dans un péché quelconque, eh bien tout notre corps est ténèbres, et peu importe notre piété. Et voilà donc ce que l'Écriture sainte nous déclare. En son temps, le conseil synodal réformé du canton de Berne répandit un pamphlet dénonçant comme hérésie l'enseignement qui affirme que le chrétien doit et peut être pur. J'ignore de quelle façon ces hommes lisent la Bible, mais ce sont tout simplement des incrédules. Car dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit bel et bien, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Il n'est pas dit « ceux qui auront éventuellement, mais qui ont le cœur pur. » Notre cœur est purifié par la foi en l'œuvre de Jésus. Je répète, notre cœur est purifié et sanctifié par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait la purification de nos péchés par lui-même. Il nous a lavés donc de nos péchés. C'est donc par la foi en sa sainte parole que nous recevons un cœur pur. Je répète, c'est donc par la foi en sa sainte parole que nous recevons un cœur pur. Je ne sais ce que pensent ces messieurs qui éditent des ouvrages s'opposant pareillement à la sainte parole divine et à la vie. Il est vrai que quelques pasteurs n'étaient pas d'accord avec cette manière de voir. Ils prévoyaient ce qui en résulterait. Ce pamphlet fut la cause qu'un grand nombre de personnes qui ont demandé leur démission, oui, il y en a, paraît-il, qui ont demandé leur démission de l'Église nationale. Car si l'on désire avoir part à l'enlèvement des élus, lorsque Jésus paraîtra, l'on ne peut rester membre d'une communauté dans laquelle la vérité est combattue, évidemment. Mais aujourd'hui, va essayer de trouver une église qui serait beaucoup mieux que cela. même dans les églises évangéliques, ça devient pareil. C'est difficile aujourd'hui. Un pasteur qui s'opposait à cet enseignement et qui devait avoir appris qu'on était différent, eh bien, il avait publié un article dans un journal disant que cette prière était tellement sainte, je parle de la prière de notre Père, qu'il ne fallait surtout pas la dire à Dieu avant de prendre un repas, car à ce moment-là, nous ne pouvions être assez recueillis. C'était son idée. Qu'il serait bien préférable de dire cette prière après le repas. Il a écrit également que nous restons toujours impurs, qu'on ne peut jamais devenir pur, et que nous péchons sans cesse, toujours, chaque jour, soit en parole, soit en pensée et en action. Aussi était-il indispensable de toujours demander pardon à Dieu. Et dans le même journal, il relatait l'accident d'un jeune homme qui s'était exposé au danger sur une montagne et il y a perdu sa vie. Il a perdu la vie. Et il dépeignait celui-ci comme étant et comme ayant toujours vécu, on peut dire, dans la pureté, n'ayant jamais pollué ses forces juvéniles, et pourtant, il convenait qu'il ne s'était jamais converti. Et voilà comment on présente les choses d'une manière partiale, en se contredisant parfois. Et ceci est une preuve manifeste que l'on ne regarde pas toujours à Dieu, ou Dieu en face surtout, et qu'on dit les choses parfois selon les personnes auxquelles on s'adresse. J'ai même connu un frère, oui, qui avait été en grande bénédiction par son travail d'évangélisation. En ce temps-là, il y avait même des évangélisations sous tente. Il y avait des prédicateurs formidables, tels que Thomas Roberts, Fernand le Grand et d'autres, et que j'avais en ce temps-là écouté pendant de nombreuses années. Certains d'entre eux, pas ceux que je viens de nommer, ont fait paraître une brochure, je dis bien pas ceux que je viens de nommer, ont fait paraître une brochure dans laquelle ils combattaient l'enseignement de la pureté du cœur. Et cette brochure fut très répandue, mais elle ne contribua pas à l'édification n'étant absolument pas inspirée de Dieu. Et dès ce moment-là, leur ministère fut stérile, car il avait subi l'influence d'hommes considérés, très considérés même, mais hélas incrédules. On peut être très considéré et incrédule, et on peut être pas du tout considéré, voire même rejeté totalement, et peut-être pas incrédule du tout. Il faut bien rire. Peu de temps après, eh bien, ceux-là ont présidé une série de réunions en Suisse allemande. Alors, certains ont traité l'Épître aux Éphésiens et ont dit de belles choses concernant l'amour et la puissance de Dieu. Ils ont prouvé ce qu'ils avançaient par les Saintes Écritures, ça c'est bien. Ils ont tenu aussi une conférence dans laquelle ils ont combattu l'enseignement de la pureté du cœur, car en ce temps-là, il y avait une grande controverse dans le canton de Berne. Ils ont déclaré qu'il était impossible de posséder un cœur pur, et des prédicateurs présents dans cette assistance-là, l'approuvaient, tous ont approuvé cela par des signes de tête. Alors, ils ont prétendu que si nous avions un cœur pur, nous ne serions pas voués à la corruption et que les enfants ne seraient plus conçus ni ne naîtraient dans le péché. Alors si quelqu'un ou quelques-uns veulent s'obstenir à tordre les Écritures saintes et à rejeter l'enseignement de la pureté du cœur en prétendant que le péché et la souillure persistent toujours, eh bien pour moi, je préfère croire tout simplement ce que dit notre Père Céleste. Il est écrit, c'est pas moi qui l'invente, il est écrit dans le psaume 24, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusque à son lieu saint ?» Seulement celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Je répète, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est écrit. Voilà donc ce que possède celui et celle qui est devenue une nouvelle créature. Nous sommes bien heureux lorsque nous croyons conformément aux Saintes Écritures. Quelle joie m'apporte cette parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et cette autre parole aussi, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Saint Jean 15, verset 2. Autrefois, je voulais concilier et expliquer ces deux textes par mon seul raisonnement. Mais aujourd'hui, je sais ceci. Je suis pur parce que le Seigneur Jésus m'a purifié. Et je crois aussi qu'il émonde, qu'il purifie tout sarment qui porte du fruit. J'en ai donc besoin et les deux choses me réjouissent aujourd'hui. J'ai été souvent poursuivi par la pensée que ma position spirituelle n'était pas très bonne. Et autrefois, je me sondais, « Es-tu vraiment comme la Sainte Parole le demande ? Es-tu vraiment lavé de tes péchés, oui ou non ? Es-tu libéré du péché ? As-tu maintenant un cœur pur ?» Et la conclusion de cet examen était la suivante, « Non, 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 je ne suis pas comme je devrais être. » Et je me lamentais en disant, « Oh, si seulement j'étais lavé de mes péchés, je ne suis pas encore affranchi. » Mais plus tard, eh bien, je me suis rendu compte que ces pensées étaient des tentations, oui, et j'ai appris à croire avec persévérance que Christ est ma vie, qu'il a payé ma rançon, il est ma justice, je suis affranchi du péché. Et si nous sommes surpris par quelque faute, eh bien nous en humilions, il ne faut pas avoir peur de s'humilier, et nous comptons avec le sacrifice expiatoire éternel. Et nous pouvons donc nous réjouir et nous reposer en Jésus et glorifier ses œuvres, non pas les nôtres. Alors, la crainte de la mort disparaît. Nous nous réjouissons d'entrer dans la maison du Père. J'ai du reste été à 3 reprises tout près de la mort. Et comment ? Et quand le professeur est venu à mon chevet, il m'a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne s'acharne pas sur vous ?» J'ai dit « Mais je suis prêt de partir, pas de problème. Mais est-ce que j'ose vous demander, vous poser une question ?» L'infirmier qui est venu à 3 heures du matin, très gentil. Bon, c'était un Suisse Toto comme moi. Et j'avais un malaise, il m'a fait une piqûre, puis tout est allé bien. Est-ce que il n'aurait pas dû le faire ? Le professeur est parti sans réponse. Il a quitté la chambre. Oui, certains vont se rappeler qu'il y avait un ancien chant qui disait « Lave-moi blanc comme la neige ». J'avais chanté cela dans les cafés avec un major de l'armée du salut. En ce temps-là, on donnait des cris de guerre dans les cafés. On avait la permission de chanter dans les cafés, c'est authentique. Oh, il y a plus de 50 ans de cela, évidemment. Tout a changé. Il paraît que on n'ose même plus porter une croix sur soi ou avoir une croix qui se verrait, par exemple, dans une salle d'école ou autre. Il faut les enlever. Hein ? On copie la France. Et pas seulement on la copie, mais en plus, il faudra aussi faire comme en France et d'autres pays, marier les homo sapiens. N'est-ce pas ? Soi-disant que l'histoire de Sodome et Gomorre n'a jamais existé. C'est bizarre. Et que donc, on peut leur donner même la Sainte Seine. C'est merveilleux, ça. Oui, enfin, j'en doute beaucoup, quand même. Oui, alors, cet ancien chant, « Lave-moi blanc comme la neige », eh bien, ce refrain a fait naître une souffrance en mon cœur. Des personnes non régénérées peuvent très bien chanter « Lave-moi », mais quant à moi, je savais de la façon la plus certaine que j'avais été lavé dans le sang de l'agneau, que j'avais été lavé blanc, plus blanc que neige. Cependant, le dernier verset de ce cantique est ainsi conçu. « Blanc comme la neige, Seigneur la source, c'est toi !» Et ceci m'a réconforté. Blanc comme la neige, Seigneur, car la source, c'est toi. Chers amis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu désires obtenir un cœur pur, observe ce qui suit, c'est-à-dire repens-toi, humilie-toi sincèrement, pour n'avoir pas cru la sainte parole de Dieu et pour n'avoir pas servi le Seigneur. Et ensuite, crois, ceci, crois maintenant, oui, maintenant, que le Seigneur a vraiment lui-même porté tes péchés en son corps sur le bois, car il nous a aimés et il nous a lavés de nos péchés par son sang précieux. Et voici donc comment Dieu manifeste sa patience envers nous. Il a juré de ne plus s'irriter contre nous et de ne plus nous menacer. S'il vous plaît, croyez tout simplement cela. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? En effet, il y a beaucoup de personnes qui posent la question « Doit-on constamment demander le pardon de ses péchés ?» Plusieurs fois par jour même. Bon, après la Pentecôte, les apôtres sont fermes, ils sont vraiment fermes comme le roc, dans leurs convictions. Ils n'enseignent pas Nous sommes parfaitement sauvés, le Seigneur a porté tous nos péchés sur la croix, cependant nous devons encore pécher. C'est dans ces termes qu'un prédicateur m'a déclaré un jour, il y a fort longtemps de cela, nous annonçons aussi dans notre Église que nous sommes délivrés de notre dette du péché, de la puissance du péché, et que nous sommes affranchis de toutes les conséquences du péché. Bravo! Mais ensuite, c'est moins bravo. Il proclamait quand même que l'on est obligé de pécher encore et encore, et qu'il n'est pas possible jamais d'être parfaitement affranchi du péché. Jamais. Alors comment serait-il possible que des hommes réalisent la nouvelle naissance par un tel enseignement? Je préférerais, moi, de rester chez moi et ne plus jamais annoncer l'Évangile si nous ne pouvions rien recevoir de plus sur ce Jésus et s'il ne s'agissait que d'une doctrine n'apportant qu'une piété extérieure, laissant ainsi l'homme dans son état naturel de péché. Si la note de mon épicier est payée, il me semble que je n'ai pas de dette envers lui, me semble-t-il. Et si elle est acquittée, elle est bel et bien payée. Lorsque notre dette de péché est acquittée, il me semble qu'elle est réellement payée et que Dieu nous en a donné la quittance. Dès que nous recevons véritablement le pardon de nos péchés, nous nous rendons compte que le sacrifice de Jésus a une valeur éternelle et que tous nos péchés, qu'ils soient du passé, du présent et de l'avenir, sont effacés. Nous pouvons dire alors, voici Dieu est vraiment ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, car c'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe chapitre 12. Du reste, le chapitre 3 de 2 Corinthiens nous dépeint deux ministères, celui de la condamnation et celui de la justice. Le ministère de la condamnation a de la clarté. Je répète, le ministère de la condamnation a de la clarté, mais celui de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Ça veut dire, dans leur vie spirituelle, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas du tout que le premier aussi, que sentent-ils en quelque sorte le besoin de prier sans cesse? Ont-ils besoin de prier sans cesse? Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ainsi, ils se trouvent continuellement, en quelque sorte, au banc des accusés, et ils se trouvent sous le poids de des condamnations. Oh, il me semble, comme il en est autrement, quand, par exemple, une personne réalise le ministère de la justice, ayant reçu la justification gratuite de Dieu par la foi, La femme d'un pasteur allemand se trouvait une fois chez un pasteur à Berne. Et il avait déclaré au culte que les pasteurs enseignent que nous sommes tous des pécheurs, que aucun de nous ne fait le bien et ne le pourra jamais, et qu'ils disent encore « Jésus est mort pour nos péchés, cependant nous restons des pécheurs ». Cette personne m'affirma que son mari ne parlait pas ainsi. Or, de retour chez elle, elle a accompagné son mari au culte qu'il a présidé, et effectivement, ce jour-là, il ne prêcha pas ainsi, mais, ce fut bien le cas le dimanche suivant. Elle se rendit compte de l'erreur. Alors elle crut à la grâce. Elle crut enfin à la grâce. Et elle reçut ainsi la paix de Dieu dans son cœur. Et elle est devenue une femme heureuse. Il est donc intéressant de constater que les femmes de pasteurs se convertissent plus facilement que leurs maris. Le thème principal de beaucoup de chrétiens est que nous devons sans cesse demander pardon à Dieu. Cependant, écoutez bien, les disciples, après la mort de Jésus, n'en ont jamais parlé. Le pasteur Berger a offert une fois 50 francs à qui pourrait lui prouver que les disciples ont enseigné qu'il faut demander pardon tous les jours pour ses péchés. Pour appuyer cette doctrine, on se réfère à certains hommes de Dieu, mais nous devons plutôt avoir la sainte parole de Dieu pour fondement et pour guide, et non pas les déclarations de ces soi-disant hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu qui, en quelque sorte, colportent les produits de leur propre raisonnement, parce qu'il est écrit dans Galates, chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris dans quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Cela veut dire qu'il peut arriver à une personne régénérée d'être surprise par une faute, c'est vrai. Il ne s'agit donc pas d'une chose qui doit se produire sans cesse. On se rend bien compte ici qu'une faute commise ne laisse pas un enfant de Dieu totalement indifférent, et que celui-ci a besoin, évidemment, de consolation, étant tenté de croire qu'il est perdu et qu'il n'y a plus de grâce pour lui. Il est donc important qu'on l'aide à se relever, et pas en mettant le pied dessus. Il est écrit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, le juste. Et c'est lui qui est la victime expiatoire pour nos péchés. Il n'est pas dit qu'il nous réconcilie toujours à nouveau, comme le prétendent certains catholiques. La rédemption, elle est accomplie, et Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est donc une grâce inestimable que de pouvoir croire que Jésus est la victime propitiatoire pour nos péchés, pour mes péchés. Nous nous humilions et nous lui rendons grâce, parce que chaque désobéissance et chaque transgression ont été expliquées par son sacrifice. Et c'est ainsi que nous pouvons redresser les âmes dans un esprit de douceur. Nous n'avons pas un sentiment de mépris pour quelqu'un qui est tombé, surtout pas, car notre position serait alors plus triste que la sienne. Lorsque nous aimons les hommes comme nous-mêmes, eh bien, nous pouvons facilement nous humilier pour eux, pourquoi pas? Et Dieu peut donc accorder des délivrances. Oui, c'est possible. Il est aussi d'une très grande importance que notre enseignement ne mette pas les enfants de Dieu sous la loi, car alors ils retourneraient de nouveau dans les ténèbres. Mais en entendant parler de ce que Jésus a fait pour eux, ils apprennent à se reposer, à s'appuyer sur son œuvre, et cela selon que l'onction les a enseignés au moment où ils ont réalisé la nouvelle naissance. C'est toujours par grâce. Oui, c'est par grâce. Ils se rendent donc compte que tout est en ordre devant Dieu, pour autant évidemment qu'ils se soient humiliés et qu'ils aient foi en l'œuvre de la rédemption qui a été accomplie une fois pour toutes. Ce n'est pas notre raison à nous qui doit nous enseigner, mais c'est la sainte parole de Dieu. Ce n'est pas parce que il m'arrive plus aucune faute que, par exemple, je dois plus jamais demander pardon. Mais c'est parce que ma dette a été payée et que je le crois vraiment, vraiment. Voilà donc la raison pour laquelle je peux rendre grâce pour le pardon. Ce n'était pas l'opinion de cet homme pieux qui prétendait que l'on est dispensé de demander pardon pour ses péchés dès le moment où l'on est parvenu à ne plus commettre de fautes. Mais celui-ci n'avait ni connu ni réalisé la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Il doit être proclamé clairement qu'un chrétien n'est parfait que par l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus. Nous ne pouvons être parfaits par nos propres œuvres et nous ne le deviendrons jamais par ce moyen-là. Être parfait, irrépréhensible et demeurer dans cette position-là, ça c'est l'œuvre de Christ, c'est le mystère de la grâce. Je répète, parce que c'est important, il doit être proclamé très clairement qu'un chrétien n'est parfait que par l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ et non pas par ce qu'il arrive à faire ou à s'améliorer de petit à petit tout au long de sa vie. Nous ne pouvons être parfaits par nos propres œuvres et nous ne le deviendrons jamais par ce moyen. Être parfait, être irrépréhensible et demeurer dans cette position-là, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et en quelque sorte, évidemment, c'est le mystère de la grâce. Dans l'ancienne alliance, nous ne trouvons point d'homme parfait, et les sacrifices de cette alliance ne pouvaient pas non plus les rendre tels. Mais par contre, le sacrifice de la nouvelle alliance rend parfait, selon Hébreux chapitre 10. Si nous nous trouvons dans cette position et que Jésus vienne à l'instant même, eh bien nous sommes prêts à partir. À l'avènement de Jésus, nous verrons parmi les enlevés, nous verrons des hommes qui auront peut-être commis une faute quelques instants même avant sa venue, mais qui s'étant humiliés immédiatement, ont en quelque sorte répété avec le prophète « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Celui qui vaincra héritera toutes choses, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes parfait en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Ça vaut la peine de le répéter. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Et vous savez qui c'est. Car si je suis tombé, je me relèverai, pas par mes propres moyens, mais avec l'aide de mon Sauveur et Seigneur qui m'a racheté. Celui qui vaincra héritera toutes choses, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, pas seulement un quart. Et vous êtes parfait en lui maintenant, et vous avez tout pleinement en lui. L'apôtre écrit cela après avoir donné l'avertissement sérieux, très sérieux, suivant dans l'épître aux Colossiens, où il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. » Ceci concerne évidemment ceux qui sont nés de Dieu. C'est l'enseignement selon Christ. Pourquoi le mot « parfait » est-il sujet à tant d'opposition? Pourquoi? Combien de choses n'a-t-on pas écrit contre cette vérité-là? Et on a prétendu que c'est une hérésie de dire que nous sommes parfaits par l'œuvre de Christ. Autrefois, je ne faisais pas spécialement attention à cette question, jusqu'au moment où elle suscita une grande animosité et que les écrits à ce sujet se multiplièrent. Cela m'engagea donc à sonder attentivement la sainte parole de Dieu. Peut-on être parfait, oui ou non? Oui ou non? Selon la sainte parole de Dieu, un homme régénéré est parfait. Donc ceux qui par leurs paroles et par leurs écrits s'opposent à cet enseignement-là, que font-ils des passages suivants de l'Écriture sainte? Écoutez bien. 2 Timothée, notez, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, et cela afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit parfaite et propre à toute bonne œuvre. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant en quelque sorte tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, afin de présenter à Dieu tout homme, toute femme devenu parfait en Christ. C'est donc à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi maintenant. Notez Philippiens chapitre 3 verset 15 également, où il est dit « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » Et notez 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11 « Au reste frère, j'ajoute sœur, soyez dans la joie, soyez parfaits. » Et encore Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, saint, ensuite irrépréhensible, et ensuite et sans reproche. J'ajoute à ce qui précède l'expérience suivante. Autrefois, eh bien, je n'osais pas m'approprier par la foi la promesse précitée. Je m'étais converti et j'avais réalisé la nouvelle naissance. Le salut, toutefois, m'avait été ravi par l'audition d'enseignements selon la raison humaine. Et lorsque je lisais dans la sainte parole de Dieu que nous devions être trouvés sans tache et irrépréhensibles, je pensais, oh là là, tu n'es pas ainsi, pas du tout. Je désirais pourtant être irrépréhensible, étant persuadé que je ne pourrais partir avec Jésus lors de sa venue. Et cette pensée m'a poussé à prendre toujours de nouvelles résolutions et à pratiquer davantage les œuvres de la loi. Mais enfin, le bien-aimé Père Céleste m'a sorti de mes œuvres de justice. Ces œuvres qui n'étaient autres que des ordures et de la boue, selon Philippiens, chapitre 3. Je n'avais accepté que la première partie du verset. Il vous a maintenant, est-il dit, réconcilié par le corps de sa chair et par sa mort. Mais il est écrit ensuite, afin de vous faire paraître devant lui. Afin de vous faire paraître devant lui. Quoi ? Saint, hein, notez saint, notez irrépréhensible et sans reproche. Alors je me hasardais d'avaler cela et j'ai compris alors que ces vérités pouvaient aussi être miennes. Il m'était donc difficile de croire que le Seigneur Jésus m'avait fait paraître saint et irrépréhensible devant Dieu. Pour terminer l'étude d'aujourd'hui, je me rendis compte que pendant toutes les années qui s'étaient écoulées depuis ma conversion, je n'avais pas cru, pas du tout, j'avais pas cru à la rédemption dans toute l'acceptation de ce terme. Car celui qui est réconcilié est irrépréhensible devant Dieu. Dieu ne lui reproche rien, plus rien, puisque Jésus lui-même est la propitiation, pour nos péchés. Il n'y a donc rien à blâmer à l'œuvre de Jésus, mais bien à ce que nous ajoutons ou que nous retranchons lorsque nous ne croyons pas exactement à sa sainte parole. Aujourd'hui, je peux l'accepter enfin comme elle est écrite, présentée, irrépréhensible devant sa face et semblable à lui. Comme le dit notre apôtre Saint Jean, tel il est, tel nous sommes aussi devant ce monde. C'est la dernière parole qui m'a fait en quelque sorte un achoppement jusqu'à ce que je l'aie enfin accepté. Et maintenant, eh bien oui, je crois. Je crois que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi ? Il les a aussi glorifiés. Alléluia. Romains 8, verset 30. Et cette autre parole qui dit, « Tu es toute belle, ma bien-aimée. Il n'y a point de tache en toi. » Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Eh bien, ceci est une bien grande bouchée. Mais le Père Céleste, il nous a donné un grand gosier pour que cette promesse puisse descendre aisément. Et c'est pourquoi il est si important que nous mangeons et que nous avalons les promesses, c'est-à-dire que nous rendons grâce et comptons que nous sommes véritablement, véritablement ainsi. Et cela, tout simplement, pas par nous-mêmes, mais par la foi. Et dès que nous avons avalé, nous pouvons être irrépréhensibles. Jésus a supporté pour nous le châtiment et nous a fait paraître ainsi devant Dieu, vous et moi. Et son œuvre est parfaite. Il ne nous a pas présenté à Dieu un peu amélioré, mais irrépréhensible. Nous sommes alors dans l'allégresse, car la misère a enfin pris fin. L'oppression a donc totalement cessé. Le bâton de l'exacteur est maintenant brisé et on possède le témoignage de Dieu. Et l'on ne dit plus « pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi », mais on rend plutôt grâce parce qu'il nous a, il t'a à toi, mon cher frère et ma chère sœur, il t'a pardonné. Alléluia. La dette est donc payée. Quel bonheur est celui de l'enfant de Dieu. Celui qui a eu accès à cette grâce sait que c'est uniquement par l'œuvre de Christ. Mais c'est un mystère, je le comprends. Dieu révélera ce mystère-là à tous ceux qui n'ont pas encore connu cette grâce, mais qui donnent tout simplement raison, tout simplement, à la sainte parole de Dieu. Nous pouvons dire ici « Amen » et nous continuerons cette étude demain matin, Dieu voulant, car c'est important et c'est des études qui donnent à réfléchir, qu'il faut parfois écouter peut-être deux fois. Je me rappelle d'une chose incroyable. Avant d'avoir compris que j'étais totalement perdu, j'ai dû lire trois fois l'évangile de Saint Jean pour comprendre que j'étais totalement perdu, que j'avais besoin d'accepter la main tendue de Jésus-Christ pour être sauvé. Tandis que ma femme, beaucoup plus intelligente par nature, eh bien, elle a compris du premier coup. Mais moi, il m'a fallu trois fois. Alors, si vous ne comprenez pas tout d'un coup, n'ayons pas honte, n'ayez pas honte de réécouter une partie de cette étude, c'est pas défendu. Prions donc maintenant ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, saint et miséricordieux, préserve-nous d'être submergés par les soucis matériels de notre métier, au point de ne plus savoir le sanctifier et l'animer. Donne-nous après l'effort, le repos nécessaire. Octroie-nous chaque jour la faculté de nous recueillir et le précieux bienfait du dimanche pour fortifier nos corps et nos âmes. Nous songeons aujourd'hui, Seigneur, à tous ceux qui ne se livrent pas à un travail honorable, à ceux qui vivent de l'effort d'autrui et poursuivent un gain malhonnête. Ouvre nos yeux à l'avertissement de ton Fils. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? nous pensons aussi à tous ceux qui doivent accomplir un travail auquel ils ne trouvent aucune joie et qui menacent d'écraser en quelque sorte leur personnalité intime. Oh oui, donne-leur la force d'écarter ce danger. Notre Père, nous pensons devant toi aux surmenés. Nous pensons devant toi aux chômeurs. Nous portons sur notre cœur tous ceux que les circonstances défavorables ont jetés dans le besoin de la pauvreté. Réchauffe notre âme en leur faveur et que notre main sache s'ouvrir devant certains grands besoins. Ô Dieu, embrase-nous de ta compassion afin que nous éprouvions à donner plus de joie que à recevoir et que nous sachions travailler utilement comme ton Fils l'a fait. Il l'a fait pendant qu'il fait jour, que nous puissions profiter pendant qu'il fait encore jour, car rapidement les choses deviennent de plus en plus difficiles, et bientôt peut-être on n'osera même plus parler de toi ouvertement, donner un tract, un évangile, une cassette, un CD à quelqu'un sans peut-être être puni d'avoir fait quelque chose qui est contraire à ces lois qu'on élabore de nos jours dans plusieurs pays. Seigneur, merci pour ton amour. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Comme je l'ai dit, l'étude que je viens de terminer, c'était les enfants de la lumière qui ont été bien acceptés par plusieurs personnes qui ont trouvé que cela les a fortifiés dans la foi. À bientôt à nouveau, demain matin, comme j'ai dit, pour la suite. Au revoir, mes très chers amis.